le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Et aujourd'hui, on va parler de la loi Asile et Immigration, puisque après un an de report, des débats houleux et un rejet de l'Assemblée nationale, la loi Asile et Immigration, portée par le gouvernement, a finalement été votée dans une version considérablement durcie le 19 décembre, malgré les alertes du Défenseur des droits et de la CNCDH. Ce 22e texte en 30 ans est à marquer d'une pierre noire, puisqu'il dégrade historiquement les droits des personnes exilées en France. Le Conseil constitutionnel a cependant largement censuré les mesures de la loi Asile et Immigration, mais ce texte reste malgré tout dangereux et le gouvernement a franchi des lignes rouges. Il est responsable d'avoir encouragé un débat nauséabond autour de cette loi qu'il savait n'être pas conforme à la Constitution. L'État devrait être garant du droit constitutionnel, pas celui qui le met en danger. Bien que des mesures n'aient pas été jugées comme anticonstitutionnelles, elles n'en sont pas moins attentatoires aux droits et aux libertés des personnes exilées. Une loi qui érige les personnes exilées en menace et qui criminalise le fait même d'être étranger sur le territoire français n'est pas acceptable au regard d'Amnesty International et au regard des droits humains. Alors on va revenir un petit peu sur ce qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Tout d'abord, il y a l'instauration de quotas migratoires. La loi prévoyait une limitation des entrées sur le territoire et des régularisations possibles sur le territoire, ce que le Conseil a jugé inacceptable. L'exigence d'une durée de séjour régulier imposée aux étrangers pour l'accès à certaines allocations, à nouveau ce point a été censuré. Les conditions d'accès à ces aides étaient devenues drastiques, de l'ordre de plusieurs années de séjour régulier pour pouvoir percevoir des aides, alors qu'en France, ces aides sont censées être accessibles à partir du moment où on est en situation régulière, notamment au nom de l'égalité. Le durcissement du regroupement familial a également été censuré, les restrictions sur l'accès au séjour pour les étrangers malades aussi. On a ensuite le dépôt de la caution de retour imposée aux étudiants étrangers. Donc ça, le système, c'était que les étudiants étrangers devaient verser une caution à leur arrivée qui leur serait rendue à leur départ. C'est quelque chose qui a été très critiqué, notamment à cause de la discrimination économique que ce point engendre, et ça limite beaucoup l'accès aux universités pour les étudiants et étudiantes étrangères, ce qui est un peu dommage puisqu'on a des étudiants et des étudiantes de partout dans le monde qui veulent venir en France pour étudier et découvrir la culture française. On a aussi le délit de séjour irrégulier qui a été censuré. La nouvelle loi prévoyait en fait de faire de tous les étrangers en situation irrégulière des délinquants. Et à partir de là, bah, on a un casier judiciaire et donc moins de chances d'avoir accès à un titre de séjour, en France ou ailleurs. Ce point-là était particulièrement discriminant et constituait un énorme recul, voire un déni des droits humains, puisque, encore une fois, tout le monde n'est plus traité à égalité. Un des points qui a fait beaucoup parler, c'était la suppression du droit du sol. Et effectivement, le Conseil constitutionnel a retoqué ce point. Pour rappel, initialement, la loi voulait que les jeunes nés de parents non français n'aient pas la nationalité française d'office. Ils et elles auraient dû attendre d'avoir entre 16 et 18 ans pour demander la nationalité française. Ils et elles auraient donc vécu dans une certaine insécurité administrative et identitaire, sans aucune garantie ou certitude d'obtenir la nationalité française. Le droit du sol fait partie des fiertés de la France. Toute personne qui naît sur le territoire français a la nationalité française sans aucune discrimination de race ou d'ascendance. Le Conseil a donc évidemment censuré ce point qui concernait les conditions d'accès à la nationalité française des jeunes nés en France de parents étrangers. Ensuite, il y a la prise d'empreintes digitales d'un étranger en situation irrégulière sans son consentement. En effet, en France, tout le monde doit être traité de la même manière devant les institutions et donc devant la police. C'est pour cela que le Conseil constitutionnel a censuré ce point. Et enfin, on a la prise en compte dans l'attribution de l'aide publique au développement du degré de coopération des États étrangers en matière de lutte contre l'immigration irrégulière. Ce point-là consistait à récompenser les États étrangers qui coopéraient avec la France pour aider à expulser ses propres ressortissants et ressortissantes en diminuant leurs dettes. Ce point, qui encourage des États déjà précaires à adopter des comportements discriminants envers sa propre population, a lui aussi été censuré par le Conseil constitutionnel. Depuis plus d'un an, associations de terrain, ONG, le Défenseur des droits, la CNCDH alertent sur de nombreuses dispositions de cette loi qui ne répond pas aux enjeux en termes de migration et elle va à l'encontre des personnes exilées. Cependant, il semble évident que de telles propositions de la part du gouvernement n'allaient pas être acceptées par le Conseil constitutionnel. Il s'agit là d'une manœuvre dangereuse de la part de l'actuel gouvernement qui met en péril les droits humains en les menaçant à travers un projet de loi dont les propositions sont clairement en désaccord avec les valeurs constitutives de la France et des droits humains. Les débats autour de cette loi ont énormément favorisé les discours de haine à l'encontre des migrants et des migrantes, et on a vu une montée non négligeable de l'extrême droite qui est en grande partie autrice des propositions de la loi Asile et Immigration. En plus de ça, malgré la censure du Conseil constitutionnel, la loi Asile et Immigration durcit tout de même beaucoup l'accès à la régularisation et au titre de séjour en France, ainsi qu'au statut de réfugié, ce qui va à l'encontre des principes de la République, à l'encontre de la Convention de Genève, à l'encontre des valeurs de l'Union européenne et à l'encontre des droits humains. Le conflit israélo-palestinien est toujours en pleine effervescence. Les civils sont face à une vague de violence sans précédent. Un cycle de violence extrême a débuté le samedi 7 octobre 2023 en Israël, à Gaza et dans le reste des territoires palestiniens occupés. Nos équipes de recherche enquêtent sans relâche sur les violations du droit international humanitaire et des droits humains commises dans le cadre de ce conflit. Les crimes de guerre se multiplient. Chaque jour, le bilan civil s'alourdit. Au cours des mois qui viennent de s'écouler, nous avons vu l'horreur se répandre en Israël, à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés. Cette escalade de la violence en Israël et à Gaza est sans précédent. Plus de 23 000 personnes ont été tuées en 3 mois à Gaza et 10 000 autres disparues sous les décombres, présumées mortes. Actuellement, environ 160 enfants sont tués chaque jour à Gaza, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au moins 1200 personnes ont été tuées en Israël et plus de 200 personnes ont été retenues en otage par le Hamas et les groupes armés palestiniens. Un accord a été approuvé dans la nuit du 21 novembre permettant la libération d'au moins 50 otages israéliens, pour la plupart des femmes et des enfants. Une catastrophe humanitaire sans précédent touche Gaza et s'aggrave chaque jour un peu plus. Au moins 85% de la population à Gaza est maintenant déplacée à l'intérieur de ce territoire. À Amnesty International, on observe une montée des discours déshumanisants également et des discours racistes à l'égard des Palestiniens et des Palestiniennes de la part de certains et certaines responsables du gouvernement et de l'armée israélienne. C'est pourquoi nous appelons à un cessez-le-feu immédiat de toutes les parties du conflit. Nous rappelons qu'il n'est pas du mandat d'Amnesty International de proposer une solution politique au conflit. Notre mission, c'est de surveiller, d'enquêter et de dénoncer les violations du droit international humanitaire et des droits humains, des violations commises par toutes les parties grâce à un travail d'enquête minutieux et 100% indépendant. Et notre priorité, c'est et ça restera la protection des civils. Reprenons un peu le cours du conflit. On a d'abord le Hamas et des groupes armés palestiniens qui ont bafoué de manière flagrante le droit international et qui ont fait preuve d'un mépris effrayant pour la vie humaine en se livrant à des crimes de guerre, notamment des exécutions sommaires de masse et des prises d'otages, et en procédant également à des tirs de roquettes aveugles sur Israël. Plus de 1200 personnes, principalement des civils, dont des enfants, ont donc été tuées en Israël et 2400 ont été blessées par des groupes armés palestiniens depuis le 7 octobre, selon les autorités palestiniennes. Nous dénonçons donc le fait que depuis le 7 octobre, des milliers de roquettes ont été lancées par le Hamas et les groupes armés palestiniens et ont atterri dans plusieurs régions du centre et dans le sud d'Israël, atteignant même Tel Aviv. Ces attaques aveugles se poursuivent malheureusement. Le 7 octobre, des exécutions sommaires de civils ont également eu lieu à plusieurs endroits dans le sud d'Israël. Au festival de musique Tribe de Nova, au moins 260 personnes ont été tuées. Et ce même jour, environ 240 otages ont été emmenés à Gaza, dont des enfants selon les autorités israéliennes. Les enlèvements de civils et les prises d'otages par le Hamas et les groupes armés palestiniens sont interdits par le droit international et constituent donc des crimes de guerre. En représailles, l'armée israélienne soumet Gaza à une campagne massive de bombardements. Ces attaques aveugles menées contre l'un des territoires les plus densément peuplés au monde, pour rappel 2,3 millions de personnes sur à peine 360 km², ont déjà causé la mort de plus de 23 000 personnes, dont de nombreux enfants. Il faut savoir que plus de la moitié de la population à Gaza est composée d'enfants et d'adolescents. Ces chiffres viennent du ministère de la Santé de Gaza et également de l'OMS qui nous dit qu'environ 160 enfants sont tués par jour à Gaza. Sur place, les scènes de chaos et de panique se multiplient. À Gaza, 50% de la population vivait déjà sous le seuil de pauvreté et deux tiers dépendaient de l'aide humanitaire en raison du blocus illégal imposé par Israël depuis 16 ans qui participe malheureusement au système d'apartheid mis en place par les autorités israéliennes. Un siège total prive la population gazaouite d'eau, de nourriture, de fioul et d'électricité. Les hôpitaux, déjà très démunis, sont privés d'équipements médicaux vitaux. Et ajouté à ça, l'armée israélienne a ordonné l'évacuation de toute la partie nord de la bande de Gaza vers le sud. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen de fuir et surtout pour aller où ? Les routes sont bombardées, le carburant manque, les blackouts successifs entravent les communications, les opérations de sauvetage et les enquêtes sur les crimes commis. Chaque jour, la situation humanitaire s'aggrave. Ce que nous dénonçons, c'est les attaques disproportionnées et indiscriminées contre les civils qui, normalement, sont interdites par le droit international humanitaire. Ce sont des crimes de guerre. Nous appelons donc Israël à s'abstenir de mener des attaques illégales qui tuent ou blessent des civils et détruisent des habitations et des infrastructures à caractère civil. Nous demandons également l'annulation de l'ordre d'évacuation et notamment des hôpitaux. Nous appelons Israël à faciliter la mise en place de couloirs humanitaires pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et à laisser passer en toute sécurité les personnes blessées et les civils qui souhaitent fuir le conflit armé. Nous demandons une nouvelle fois à Israël de mettre fin au blocus illégal de Gaza, instauré depuis 16 ans, ainsi qu'à tous les autres aspects du système d'apartheid israélien imposé à tous les Palestiniens et les Palestiniennes. Il est impératif que les infrastructures Internet et télécommunications fonctionnent à Gaza pour permettre les opérations de sauvetage. Nous demandons au Conseil de sécurité des Nations Unies d'imposer à Israël, au Hamas et aux autres groupes armés un embargo total sur les armes qui couvre la fourniture, la vente ou le transfert, direct ou indirect, d'armes et de matériel militaire, y compris les technologies, pièces et composants, l'assistance technique, la formation et l'aide financière ou autres qui y sont liées. Pour rappel, nous appelons depuis longtemps déjà le Conseil de sécurité de l'ONU à imposer cet embargo total sur les armes à toutes les parties au conflit à Gaza et en Israël. Nous appelons à ce que les personnes responsables des crimes répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. Nous appelons également à ce que tous les responsables des crimes répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. Et si vous voulez vous aussi vous joindre à nous dans cet appel, je vous invite à vous rendre sur le site d'Amnesty International pour signer la pétition qui est en cours. Aujourd'hui, toutes les parties au conflit continuent de commettre des violations graves du droit international humanitaire, dont des crimes de guerre. Nous demandons donc à tous les membres de la communauté internationale de s'unir et d'exiger un cessez-le-feu immédiat de la part de toutes les parties au conflit. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a invoqué le 6 décembre l'article 99 de la Charte des Nations Unies. C'est une mesure exceptionnelle qui tire la sonnette d'alarme auprès du Conseil de sécurité pour qu'il réclame un cessez-le-feu à Gaza. Par l'adoption d'une résolution, le Conseil de sécurité peut mettre fin aux souffrances des civils. Alors l'article 99, qu'est-ce que c'est ? C'est un article qui permet au secrétaire général de l'ONU de, je cite, « porter à l'attention du Conseil de sécurité toute question qui peut menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale ». En invoquant cet article, Antonio Guterres a mis en garde contre un risque grave d'effondrement du système humanitaire à Gaza. Notre secrétaire général, Agnès Callamard, a rencontré le 8 décembre 2023 le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Nous appelons les États-Unis, membres du Conseil de sécurité, à ne pas bloquer cette résolution qui exige un cessez-le-feu. Nous appelons aussi la France à soutenir la résolution du Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu. En effet, rien ne peut justifier que l'on continue à bloquer une résolution pour mettre fin aux souffrances des civils, à l'effondrement du système humanitaire et au déplacement massif de population. L'application sélective du droit international doit cesser. L'humanité doit prévaloir. Un cessez-le-feu immédiat est indispensable pour permettre aux organisations humanitaires d'acheminer suffisamment d'aide dans ce territoire et de la distribuer en toute sécurité. C'est le moyen le plus efficace de protéger la population civile et éviter que le bilan en vie civile ne continue de s'alourdir à Gaza. Et enfin, il pourrait offrir une possibilité d'obtenir la libération des otages, de tous les otages, sains et saufs. Encore une fois, si vous voulez vous aussi soutenir cette cause, vous pouvez vous rendre sur notre site amnestyinternational.fr pour signer la pétition en ligne en rapport avec le conflit israélo-palestinien. Moi, je vous souhaite un bon week-end sur Radio FM+, et à la semaine prochaine.